prions à nouveau, demandons au Seigneur de nous accorder sa présence par le Saint-Esprit pour que la parole puisse être donnée, qui vienne rejoindre nos cœurs et nous édifier véritablement. Chacun d'entre nous, nous avons tous besoin de cette parole du Seigneur. Alors nous la demandons vraiment comme venant de Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous tournons vers toi, nous te demandons, Père, par le nom de Jésus, de parler maintenant, de nous instruire, de nous édifier, de nous dire ce qui est nécessaire à nos cœurs, à notre esprit, à nos âmes pour le temps présent. Seigneur notre Dieu, veuille nous bénir alors que nous cherchons ta présence, alors que nous cherchons à te glorifier. C'est pour cela que nous sommes rassemblés, parce que tu as fait une œuvre dans nos vies, Père. Tu as fait une œuvre pour nous sortir de notre état de mort, sortir de nos péchés, sortir de nos guerres, et créer en nous un cœur pur, Seigneur. Alors que la parole ici nous aide. Amen. Eh bien, je pense que nous sommes là tous réunis pour bénéficier ensemble de la parole de Dieu. J'ai choisi un verset très simple, juste un verset pour fonder ce message. Les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix. Il y a une description qui nous est faite ici, qui est tout à fait particulière, qui est inhabituelle, qui est un temps spécial. Un temps spécial dans tous les temps qu'a connu l'Église. L'Église était en paix. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est un développement naturel, sans heurts, dans des conditions favorables. C'est une chose merveilleuse lorsque l'Église peut marcher ainsi, peut être en paix, bénéficier de la paix et produire la paix. Et là, c'est dans des lieux bien particuliers, c'est dans les lieux où le Seigneur Jésus lui-même a marché, en Judée, en Galilée, en Samarie, là où le Seigneur a prêché, là où il a accompli des miracles, là où il a déjà manifesté la grâce de Dieu. Et l'Église, dans ces contrées d'Israël, est en paix. Enfin, elle connaît la paix, parce que les débuts de la vie de l'Église n'ont pas été paisibles. À peine la prédication donnée avec force, puissance, la persécution est venue. Il y a eu le martyre d'Étienne, il y a eu la dispersion des disciples un peu partout dans les régions de l'Asie à cette époque-là. Mais ici, l'Église est en paix. C'est une nouvelle réalité, l'Église. L'Église, en étant fondée par le Seigneur Jésus-Christ, apporte quelque chose de nouveau dans le monde. C'est une création nouvelle, l'Église. Et là, elle se développe et elle est en paix au sein de la nation qui avait été premièrement choisie, appelée par le Seigneur pour former un peuple qui lui appartienne en propre, Israël. Et c'est là, au sein d'Israël que l'Église se développe, s'accroît, porte son fruit dans la paix. C'est la situation totalement incroyable, irréalisable humainement. L'Église n'est pas de l'ordre naturel des choses. Elle est née par la puissance du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu sur les disciples rassemblés, qui attendaient, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a formé l'Église. Il a formé l'Église, cette nouvelle réalité. C'est une manifestation du ciel sur la terre. L'Église n'est pas une institution humaine, n'est pas une création naturelle. C'est une création surnaturelle. C'est une manifestation du ciel sur la terre. L'apôtre pourra dire aux Hébreux que vous êtes approchés, chapitre 12, verset 22, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Voilà avec quel univers nous sommes en communion lorsque nous devenons membres de l'Église de Jésus-Christ. Par Israël, donc, Dieu avait fait un premier choix pour se mettre à part un peuple qui lui appartienne. Mais maintenant, c'est l'Église. Et l'Église sont ceux qui sont entrés dans une nouvelle relation avec Dieu par l'œuvre de la croix. Épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 8 à 12. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Voilà l'Église. Tous ces croyants, tous ces membres, tous ces disciples qui s'approchent de Dieu avec confiance. Selon le plan éternel que Dieu avait conçu en lui-même. Par l'œuvre de la croix, la route nouvelle et vivante a été tracée pour que nous puissions entrer dans la présence de Dieu, être en communion avec notre Seigneur. Et les anges voient avec étonnement l'émergence de l'Église. Il y a eu Israël déjà. Et les anges ont eu part au témoignage d'Israël, à tous les miracles dont Israël a pu bénéficier, à la loi, l'enseignement qui a été donné à Israël. Tout cela, les anges y ont participé. Et là, maintenant, ils assistent à l'émergence de l'Église. Et ils voient certainement avec étonnement ce que Dieu a fait pour que non seulement des membres du peuple d'Israël reçoivent le pardon des péchés et l'espérance de la vie éternelle, mais qu'à eux soient joints les hommes et les femmes de tous les peuples, et ce sur la simple base de la grâce, du pardon que Dieu accorde en vertu du sang de Jésus. C'était le projet initial, le passage vient de nous le dire, du cœur de Dieu. Et ce projet initial du cœur de Dieu, de ce que tous les hommes, tous ses enfants puissent le célébrer dans le monde entier librement, il a été rendu possible par l'Évangile. Par l'Évangile, Dieu a révélé son Fils et créé l'Église par lui, à travers lui. Matthieu, bien entendu, chapitre 16, c'est là où Jésus parle pour la première fois de cette Église. À partir du verset 13, nous lisons « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes ?»« Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voyez-vous, lorsque Pierre a parlé de son propre chef, il était l'instrument de Satan, il a dû être repoussé. Par contre, lorsqu'il s'est laissé inspirer par l'Esprit du Père, il a dit le fondement de tout. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur a pu dire, eh bien moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais voilà, pour que naisse l'Église, il fallait les souffrances du Fils de Dieu, qui est reconnu et confessé comme tel. Alors, frères et sœurs, vraiment, parlez, entretenez-vous, pensez à l'Église. Que l'Église soit l'objet vraiment de votre attention. Mais que l'Église soit cet objet d'attention pour ce qu'elle est. L'œuvre de Dieu par la révélation de son Fils. L'institution divine. Une construction spirituelle pour le royaume éternel. Par son origine divine, on peut dire vraiment que l'Église est sortie du côté percé de Jésus à la croix. Par son origine divine, l'Église introduit au royaume des cieux. Elle ouvre la route pour la Jérusalem céleste. Il y a encore une Jérusalem terrestre. Cette Jérusalem terrestre a connu toute une histoire. Elle a connu des rois, elle a connu des prophètes, elle a connu des vaillants. Mais comme Étienne le mentionnait à la fin de son message, la semaine dernière, elle a été aussi ravagée, détruite, cette Jérusalem terrestre. Mais pas totalement. Pas totalement. Le temple a été détruit. Mais il y a peu, 70 ans, cette Jérusalem a retrouvé des forces, a retrouvé une réalité politique, etc. Et beaucoup de pèlerins peuvent aller à Jérusalem, une Jérusalem renouvelée, Jérusalem, mais qui garde ses anciens murs, qui garde cette particularité de la ville dans laquelle les rois du Seigneur ont exercé l'autorité. Les prophètes ont parlé, et surtout le Seigneur a enseigné et a été crucifié. Mais cette Jérusalem, elle va encore être mise en cause, elle va encore être bousculée. Mais elle prépare et elle annonce une autre réalité bien plus grande, qui est le lieu de la présence éternelle du Seigneur. Lorsque le prophète Ézéchiel présente la ville nouvelle, il conclut sa prophétie par « Et désormais le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». L'Éternel est ici. Là, il y aura la paix, là, il y aura la joie, là, il y aura la liberté. Là, il y aura la sainteté, la perfection. Dans cette nouvelle Jérusalem, cette ville céleste dont nous parle également le prophète Jean dans l'Apocalypse. Alors, la profession de foi en Jésus, Fils de Dieu, Dieu venu en chair, permet à Dieu, nous prépare pour ce temps où il sera présent en toutes choses. Car Dieu sera tout en tous. Et il le fait en venant déjà résider en nous aujourd'hui. Oui, l'Esprit de Dieu peut venir résider dans le corps de ses enfants rachetés. Un même Esprit donné à tous les croyants, tous ceux qui confessent le nom de Seigneur Jésus-Christ pour former un seul corps. C'est ça l'Église. C'est une réalité et une institution distincte de toute autre collectivité humaine, de sorte que l'apôtre peut dire, dans son épître aux Colossiens, il n'y a ici, chapitre 3, verset 11, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Et très sérieusement, aujourd'hui, nous pouvons dire, il n'y a ici ni russe, ni ukrainien. En Jésus-Christ, ils sont font partie de l'Église, du corps de Christ. Tous les disciples, tous ceux qui lui appartiennent par la foi. Et je sais, avec un mouvement comme celui des Gédéon, dont le frère Philippe et puis Samuel maintenant aussi fait partie, et puis aussi les épouses, hein, ce mouvement, il est présent en Ukraine, il est présent en Russie, et aujourd'hui, les frères Gédéon de Russie prient pour leurs frères Gédéon d'Ukraine. Et inversement, Parce que la foi en Jésus-Christ transcende tout. Parce qu'il continue au sein de la guerre à préparer le royaume des cieux. Bénissons le Seigneur. Alors justement, l'Église était en paix. L'Église était en paix. Ça, c'est la caractéristique, c'est le lieu naturel de l'évolution de l'Église, la paix. L'Église porte la paix en elle. C'est sa constitution, et puis c'est sa poursuite, et puis c'est son moyen d'action, la paix. Parce que lorsque vous, en tant que chrétien, personnellement, vous avez ajouté votre signature à la signature de Dieu, ben c'est pour être en paix avec lui, à cause de l'initiative que lui a prise de faire la paix avec vous par le sang de la croix. Sinon, vous ne seriez pas chrétien. Si nous restons dans Colossiens, chapitre 1, versets 19 et 20, Christ est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est Dieu qui a fait la paix. Et en comprenant votre besoin, votre détresse, votre péché, eh bien, vous avez reçu la paix de Dieu, vous avez rejoint l'initiative de Dieu, vous avez mis votre propre signature en donnant votre cœur au Seigneur pour que la paix soit établie. Chapitre 2, versets 14 et 15, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en les livrer, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Ces autorités spirituelles qui s'opposent à notre paix, qui s'opposent à notre salut. Donc vous avez signé l'armistice définitif. Et puis aussi, donc c'est vraiment avec Dieu, avec Dieu. Mais par répercussion, vous avez aussi signé la paix avec votre prochain, avec vos frères et sœurs. Puisque vous n'êtes plus maintenant, par la grâce que le Seigneur vous a faite, de vous restaurer, vous n'êtes plus dans la compétition ou dans la dévalorisation. Parce que vous avez appris que le même sang de la croix a été nécessaire pour tous, les connaissants comme les ignorants, les recommandables comme les pécheurs notoires, les expérimentés comme les néophytes, les vieillards comme les jeunes gens, et ainsi de suite, on pourrait multiplier les catégories. Tous sont accueillis au titre de la grâce que Dieu leur a faite par le don de son Fils bien-aimé. Dans Éphésiens encore, chapitre 2, versets 17 et 18. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Encore aujourd'hui, le Seigneur fait connaître sa paix à certains qui sont très loin. Nous encore, nous avons une culture, on peut dire une culture chrétienne, mais d'autres restent dans leur forêt, là, avec leurs coutumes, avec leur totale ignorance de l'Évangile. Eh bien, Dieu leur envoie sa parole. Eh bien, ils sont gagnés, pardonnés, purifiés, transformés de la même façon que nous. Et ils découvrent le même Père que nous avons. Et il n'y a pas de différence entre eux et nous. Ils ne savent peut-être pas lire, pas écrire, mais ils reçoivent la présence du Seigneur dans leur cœur. Ils sont peut-être encore pleins de peintures et de piercings, des choses comme ça, mais le Seigneur vient auprès d'eux, le Seigneur les convainc de sa grâce et le Seigneur établit la paix. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle « L'enfant de paix », un livre, « L'enfant de la paix », une de ces tribus de... Alors, c'était Papou, voilà, parmi les Papous, qui avaient des coutumes comme ça. Mais il y avait quelque chose dans leurs coutumes qui pouvait leur faire comprendre qu'un enfant pouvait être échangé contre la paix. Eh bien, à travers cette coutume, les missionnaires ont pu leur faire découvrir Jésus-Christ. Et puis, là où il y avait des guerres permanentes, eh bien maintenant, c'est la paix qui est établie entre ces tribus. Et le Nouveau Testament a été, il n'y a pas si longtemps, fini d'être traduit dans cette langue. Le Seigneur établit vraiment la paix entre nous. Il nous met en paix avec lui, il établit la paix entre nous. Il nous donne un esprit nouveau, un esprit de paix. Vous savez bien que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces choses sont données par l'Esprit, sont expérimentées et partagées par l'Esprit. C'est dans l'ordre des choses. Si quelqu'un n'est pas en paix, vraiment, qu'il révise sa position chrétienne. Parce que être membre du corps de Christ, c'est participer à cette paix. Mais voilà, le monde qui n'a pas reçu Christ... fait souvent la guerre à l'Église. Ce que je disais tout à l'heure, dès le commencement du témoignage de l'Évangile, la guerre a été déclarée contre les chrétiens. Et de ce fait, souvent l'Église n'est pas en paix. Par des agressions extérieures. Hein. Et la foi doit s'exercer particulièrement pour garder la paix dans des circonstances de persécution. On peut dire, c'est facile de dire, nous sommes des gens remplis de paix, mais lorsque quelqu'un vient vous arrêter, vous frapper, vous mettre en prison, vous lapider, dans un premier temps, c'est difficile de garder la paix. Il faut pouvoir exercer la foi pour garder la paix dans ces circonstances. C'est aussi le cas d'ailleurs pour des situations personnelles. Combien d'entre vous voudraient bien vivre la paix dans votre foyer, dans votre famille? Et puis, non, et c'est difficile d'avoir là, de vivre dans un contexte perturbé, troublé, de récrimination, de contestation. C'est difficile. Alors, quel temps béni quand l'Église jouit de la paix ou quand dans vos familles, la paix a été vraiment bien établie. Et ici, donc, dans toute une contrée, l'Église peut s'édifier, marcher dans la crainte du Seigneur et s'accroître. Et si vous connaissez des situations de paix dans votre vie, et eh bien, vous allez aussi pouvoir faire croître ce que le Seigneur vous a donné. et porter d'un bon fruit. Et voir l'action du Saint-Esprit, puisque vous désirez marcher dans la crainte du Seigneur, voir l'action du Saint-Esprit se manifester. C'est vraiment sous l'influence du Saint-Esprit que l'Église s'accroissait. L'humain en soi ne fait rien pour faire progresser l'Église. C'est l'Esprit, il est dit, qui assistait. Et donc c'est lui qui donne le progrès parce qu'il assiste l'Église par l'assistance du Saint-Esprit. J'aime bien cette mention parce que ça signifie bien entendu que si le Saint-Esprit est l'assistant, ça signifie que les fidèles sont engagés. Il y a des initiatives, il y a certainement de l'organisation, mais dans la communion du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, les choses avancent, les progrès se manifestent, la parole est comprise, les cœurs sont changés, les interventions miraculeuses peuvent se produire dans les vies, parce que l'Esprit est là à l'œuvre. Nous devons compter sur l'Esprit, nous tourner vers Dieu pour que l'Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations d'Église. Et là, l'Église va pouvoir s'accroître. Alors que le Seigneur soit béni pour ces temps particuliers de paix, mais il est une situation très particulière qui se répercute sur la paix de l'Église. C'est lorsque le monde est bouleversé par la guerre. Ce n'est pas l'Église directement qui est visée. Ce n'est pas l'Église directement qui est persécutée. Mais le tourment de la guerre s'attaque à tous, les saints comme les profanes. Et on ne peut pas dire que l'Église soit en paix lorsque le monde est sous les bombes. Le flot de réfugiés comprend aussi des saints. Cependant, nous croyons qu'une Église en paix va reconstituer systématiquement des îlots de paix. Le témoignage de l'Évangile est maintenu et apporte la paix au cœur même de la guerre. Nous sommes convaincus de cela et nous le voyons. Nous savons que des frères et sœurs sont à l'œuvre pour continuer le témoignage dans les villes d'Ukraine et que d'autres sont à l'œuvre dans les pays limitrophes. Tout le monde est à l'œuvre. Mais l'Église spécifiquement est à l'œuvre dans ce contexte. Et dans ces temps bouleversés, eh bien, de nouvelles communions s'établissent qui créeront de nouveaux lieux de paix. De nouvelles églises peut-être émergeront, ainsi que des églises renouvelées sous la puissance de la paix de Christ. Il ne peut pas en être autrement. Et nous devons vraiment nous y attendre et y travailler. Il y a un certain nombre d'années, ce n'était pas la guerre, mais c'était quand même les lendemains de guerre, etc. Il y a toute une communauté de Polonais qui sont venus habiter en France. Et ben, moi, j'ai le privilège d'avoir un beau frère d'origine directe polonaise. Il y a 20 ans maintenant, le Rwanda était détruit, dévasté par un génocide terrible. Eh bien, nous avons dans l'Église, dommage qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, mais des frères qui proviennent directement de ce cataclysme, le frère François, qui nous a fait connaître le frère Audace, et maintenant le frère Vincent. Mais s'ils sont présents parmi nous, c'est à cause de cette terrible drame qui a eu lieu chez eux il y a 20 ans maintenant. Et certainement que des frères ukrainiens rejoindront les églises et possiblement la nôtre suite à ces événements d'aujourd'hui. Et ce sera la paix entre nous. Et ce sera la paix de Christ qui sera partagée, qui sera exaltée dans l'attente du jour où elle sera définitivement installée par l'avènement du Seigneur. Voyez que le Seigneur Jésus vous bénisse dans cette attente. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Ah, je veux aussi mentionner à nouveau des frères, d'autres frères d'Afrique qui sont parmi nous, parce qu'eux aussi ont connu la persécution. Le frère Joseph, là, ici, est là avec sa famille. Il a connu aussi la guerre. Et puis, vous savez, il y a nos frères péruviens. Au Pérou, il y a quelques décennies de cela, il y avait des révolutions, il y avait des guérillas, il y avait des actions terribles. Alors, ce n'est pas directement cela qui a amené ces frères ici, dans la région, mais ils viennent aussi d'un pays qui a été troublé par beaucoup de conflits. Et nous sommes en pleine communion avec eux lorsque je viens généralement à la fin de leur réunion, là, le dimanche, et que le pasteur est encore en train de prêcher. Et voilà, eh bien, je me sens totalement, mais alors totalement dans la même pensée, la même prédication, c'est l'Église, c'est la même Église, c'est la même foi, il n'y a aucune distinction entre nous. L'Église était en paix. Cambodge, oui, on a eu aussi des réfugiés cambodgiens qui ont constitué une église à Tourcoing. Et une des sœurs se joint à nous de temps en temps. Hein. Mais même une sœur comme Yeli, vient du Venezuela, qui a aussi été éprouvée par des situations politiques très difficiles. Combien de situations comme celle-là? Mais l'Église est là, subsiste et se renouvelle avec toute cette communion qui s'établit par la paix de Christ. C'est un grand privilège que nous avons. Amen.